Rouletabille chez le baron Krupp, chapitre 22. Le dernier voyage du Vézel. De la rumeur encore au fond de la cale, de la rage, tout ce remuement de sentiments forcenés qui enveloppe Rouletabille, et que celui-ci mate encore un instant. Combien de minutes encore pourra-t-il retenir ces fous que la perspective de la mort de Nicole rend de plus en plus intraitable? Mais le reporter est tellement attaché à la parole qui glisse de la bouche de Vladimir qu'il néglige tout le reste, qu'il ne s'occupe plus du reste, de toute cette fureur qui grouille derrière lui, et qui lui mord les talons. « Parle, Vladimir, parle. Si elle ne t'a rien dit, c'est qu'elle ne pouvait rien te dire, peut-être. » Et il faut penser que, puisqu'ils étaient dans la nécessité de substituer à la Nicole malade une Nicole bien portante, ils avaient dû imposer à la Nicole malade une autre personnalité que celle de la vraie Nicole. Certes, comprenez et espérez encore. Cette autre personnalité avait dû lui être imposée sous peine de mort et sous peine de supplice des siens. Toujours le chantage, à toutes les pages, à toutes les lignes de l'histoire du monde. « Lui as-tu dit, Vladimir, que tu venais de la part de Rouletabille ?»« Je n'ai pas osé, assura Vladimir. Je n'étais pas sûr de la personne en face de qui je me trouvais. Elle se méfiait trop pour que je ne me méfiasse point à moi aussi. » Elle consentait à être conduite en Hollande, c'était déjà beaucoup. Rien n'est perdu. C'est malheureux que tu n'aies pas pu la voir, car enfin tu avais vu l'autre Nicole déjeuner des fiançailles. Et si la Nicole de l'hôpital lui avait ressemblé, c'est elle qui aurait été la vraie Nicole, à coup sûr, car on avait besoin d'une Nicole bien portante, et il n'avait aucune raison d'inventer une Nicole malade. L'affaire s'est passée de nuit et dans les ténèbres de son dortoir et de la cour de l'hôpital. Je n'ai eu que le temps de jeter cette femme voilée dans l'auto de la princesse. Et puis je sautais sur le siège. Je conduisais moi-même. Enfin, elle ne voulait pas se faire voir. Mais je crois que c'était elle. Mais je n'en suis pas sûr, puisque je ne la connaissais pas. Je ne puis vous rapporter que ce qu'elle m'a dit. Et elle m'a dit qu'elle était Barbara Lix, la femme captive en Allemagne, et accusée d'espionnage du fameux journaliste démocrate hollandais. Et voilà pourquoi elle consentait à fuir en Hollande avec moi, mais en tant que Barbara Lix. Elle avait raison, puisque tu étais prêt à la faire fuir à n'importe quel prix, et qu'ainsi même, si tu représentais pour elle un piège, elle bénéficierait de cette fuite au besoin, sans que, en cas d'accident, les Fritz puissent lui reprocher d'avoir dévoilé sa véritable personnalité. Rien n'est perdu. Espérons. Je vous dis que nous avons le droit d'espérer. Entendez-vous, vous autres? Avez-vous bientôt fini chronique comme ça? De me manger comme ça, avec vos yeux de feu? Quand vous m'aurez dévoré, vous serez bien avancé. Vladimir, où as-tu conduit cette femme en Hollande? Où nous attend-elle? Car elle nous attend, dit. Tu lui as dit qu'elle devait nous attendre? Je n'ai eu que le temps de lui dire cela et de repartir. Elle nous attend à Arnhem, à l'hôtel des Provinces-Unies. Je lui ai dit de rester là jusqu'à demain matin. « Je vous dis que tout est sauvé, soupira Rouletabille. Nous serons à Arnhem avant ce soir, bien avant ce soir, et là, nous trouverons Nicole. »« Si nous ne l'y trouverons pas, fit la voix du Polonais, tu es mort. »« C'est entendu. Mais d'abord, cher monsieur, calmons-nous, éveillons, et soyons prudents, circonspects et prêts à tout, car le principal de toute évidence est d'arriver à Arnhem. » À ce moment, le bruit sourd et répété de détonations d'artillerie fit dresser l'oreille à Rouletabille, à la candeur et à Vladimir, et du coup la rage du Polonais et le désespoir de Fulbert en furent comme suspendus. « Qu'est-ce que c'est que cela ?» fit Rouletabille. « Et d'abord, pourquoi n'avons-nous pas déjà appareillé ?»« À cette heure, nous devrions être déjà en route. »« Je vais voir, » fit Vladimir. Le slave se glissa entre les caisses et disparut. Il resta absent 10 minutes, pendant lesquelles les coups de canon ne cessèrent point. Rouletabille avait besoin de contenir son anxiété. Les deux autres ne disaient rien. Enfin, Vladimir réapparut. Voilà, jeta-t-il, c'est bien simple. On s'est aperçu de votre évasion à l'usine, et on doit se douter que vous êtes à bord de quelques bâtiments, car le port est fermé et tous les départs sont suspendus. Bonsoir de bonsoir, nous voilà encore fichus, gronda la candeur. Ça allait trop bien. Car la candeur, qui avait depuis longtemps fait le sacrifice de Nicole, trouvait que tout allait bien du moment que l'on était sur le point touché à une terre neutre. On t'avait dit simplement. Nous partirons quand même, parce qu'il faut partir. Es-tu prêt, Vladimir? Mon cher, répondit Vladimir, je ne suis prêt que pour le déjeuner de midi, moi. Un Fritz, répliqua l'autre, est toujours prêt à faire la noce à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Profite donc du retard dans le travail imposé par la défense officielle d'appareiller pour sortir ton gala. Toute la boostify dehors et les paniers de champagne de Delpas Pacha. Un pacha a mis dans vers le magnifique, c'est bien faire les choses. Mais c'était entendu, tout était entendu, grand méni. Que la fête commence, va trouver le capitaine, à table, et vite. Le capitaine fait tout ce que je veux, dit Vladimir. Delpas Pacha est assez riche pour cela. Et dès que ces messieurs auront bu, le reste ne traînera pas, le champagne est bien travaillé. Descends-moi vite les armes, il faut que nous soyons maîtres du bateau dans une heure. Offre-leur à boire à tous, gave-les. Dans une demi-heure, nous offrirons de la poudre à ceux qui n'auront pas assez bu. Et dans quelques heures, messieurs, nous serons à Arnhem. Bonsoir de bonsoir, éclata encore la candeur qui renaissait à l'espérance. Voilà une dernière aventure qui me plaît. À une condition, mon vieux Vladimir. C'est qu'en même temps, tu nous descendras des armes, tu nous apportes quelques bouteilles de champagne, j'ai une soif. Non, lui expliqua Vladimir, ce champagne-là, il vaut mieux que tu n'en boives pas. On n'a certainement pas oublié la dépêche publiée par tous les journaux de l'Entente et expédiée du Havre le 14 janvier 1915. Elle relatait l'évasion extraordinaire d'un certain nombre de Liégeois qui s'étaient emparés d'un bâtiment et qui étaient parvenus à s'enfuir ainsi jusqu'en Hollande. Rouletabille racontait plus tard qu'il avait été inspiré par cette dépêche-là dans le plan qu'il avait préparé avec Vladimir, et nous ne pouvons mieux faire que la reproduire ici textuellement. Le Havre, 14 janvier. On a raconté dernièrement l'audacieux coup des Belges qui, après avoir enivré des marins allemands, s'emparèrent de leur bateau et firent route vers la Hollande où ils arrivèrent sans encombre. Cette prouesse vient d'être renouvelée, mais dans des conditions extraordinaires d'audace. Elle a permis à 103 Liégeois, parmi lesquels quelques femmes et enfants, de quitter Liège nuitamment, à bord d'un bateau réquisitionné par les Allemands, l'Atlas V, et d'aborder en Hollande. Cet Atlas V est un remorqueur, ancien bateau de guerre, d'une certaine force, acheté jadis à une puissance neutre. Il quitta Liège vers minuit, emporté par le violent courant de la Meuse, que les inondations ont fait déborder. En cours de route, il rencontra bien des obstacles, un pont de bois près de Vise, des câbles mis en travers du fleuve, mais il vint à bout de tout. Le pilote avait blindé sa cabine à l'aide de tôles d'acier prises dans la soute à charbon. Grâce à cela, il put braver les nombreux coups de fusil des sentinelles allemandes et le feu des mitrailleuses. Des canons furent même braqués sur ce bateau, mais ils ne l'atteignirent pas. Le voyage de Liège à Esden, Hollande, se fit en 1h15. Les voyageurs étaient couchés à fond de cale, aucun ne fut atteint. Ajoutons que ce bateau venait de coûter 3 500 francs de réparation aux Allemands. Les choses se passèrent avec la même simplicité audacieuse à bord du Wesel. Au cours d'un déjeuner offert à l'état-major, à une partie de l'équipage et à une cinquantaine de passagers exceptionnels, 5 démons armés jusqu'aux dents surgirent dans le moment que le champagne coulait à flot et avait déjà, sur quelques-uns, produit des effets somnifères tout à fait inattendus. L'état-major fut fait prisonnier et enfermé à fond de cale. Le reste n'offrit aucune résistance. Le maître de chauffe et les mécaniciens durent obéir sous peine de mort aux ordres qui leur furent donnés. Et le Wesel, sortant de Duisbourg, eut bientôt atteint rue Hort, au confluent de la Ruhr et du Rhin. C'est là que les difficultés purent apparaître aux audacieux évadés un moment invincible. Poursuivi par un remorqueur sur la dunette duquel on parvint à distinguer de nombreux officiers qui poussaient de véritables hurlements, Rouletabille et ses compagnons ne tardèrent pas à faire feu de toutes leurs armes. À ce remorqueur vinrent se joindre bientôt 2 chaloupes automobiles. Heureusement pour nos amis, un événement aussi extraordinaire que celui d'un cargo bravant les ordres officiels en pleine Allemagne, dans une contrée éloignée des hostilités, n'avait pas été prévu. On se trouvait désarmé devant tant d'audace. Il y avait bien des canonnières sur la Ruhr. Aucune n'était en état de poursuivre. Elles étaient revenues là pour réparation. Les embarcations qui donnèrent la chasse aux Wesel n'étaient pas armées. À l'abri derrière les bastingages et les sabords, Rouletabille, Fulbert et le Polonais firent de nombreuses victimes, tandis que la candeur et Vladimir surveillaient, revolver en main, l'équipage prisonnier dans l'entrepont et les chauffeurs. Au nord de Ruhrort, la poursuite fut même abandonnée, mais Rouletabille pensa bien que ce n'était pas pour longtemps. Le téléphone avait dû marcher, on aurait eu du travail à la frontière. Mais il fallait passer quand même. Ils étaient décidés à tout, à sauter, à couler, s'ils ne pouvaient passer. Les chaudières furent chauffées à blanc, le Wesel trépidé de toute sa membrure. Et quand à 1 kilomètre de la frontière, les bâtiments ennemis se présentèrent, lui barrant la route, il passa au travers, littéralement au travers, car il en coula un, reçut lui-même une volée mitraille, 10 obus, et arriva en Hollande. Il y arriva à crever, mourant, mais y arriva. Un obus avait réduit en miettes le capitaine, son second et 3 matelots. Quant aux 5 passagers qui nous intéressent, ils étaient sains et saufs, sans une égratignure. 2 heures plus tard, Rouletabille, ses acolytes, après s'être expliqué avec les autorités hollandaises, se présentait à Arnhem, à l'hôtel des Provinces-Unies, et demandait à voir tout de suite Madame Barbara Lexey. On leur répondit, Madame Barbara Lexey est partie ce matin avec son mari, qui est venu la chercher, pour Rotterdam.